I don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
What will be your reaction?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天原本居住在祁连县偏远牧区的牧民达鲁加
正忙着忙着。
Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, cette émission que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à 11h50, une émission préparée ce matin par Tiffaine de Roquigny, Clément Salézard, Xavier Martinet, réalisée par Charles Le Gargasson, de retour de Côte d'Ivoire, Charles Le Gargasson, et à la technique ce matin, Léa Le Foll. On poursuit notre série sur les villes qui se meurent. Nous parlions hier de Homs, de Kobané, de Sarajevo, ces villes martyrs. On va aller du côté aujourd'hui de Détroit. Touché de plein fouet par la désindustrialisation, Détroit n'a cessé de perdre ses richesses et ses habitants depuis les années 50, 60, jusqu'à la faillite annoncée en juillet 2013. Motown, donc, la contraction de Motortown, l'ancien berceau des Big Three, Ford, Chrysler, General Motors, a perdu en effet la moitié de sa population en 60 ans, direction Détroit.
You know, the school system's shot.
Le système scolaire est foutu. L'infrastructure est foutue. Tout est vieux et obsolète.
It's horrible.
C'est horrible.
Elle aura bien du mal à se défaire de cette image. Détroit, une ville en faillite qui par endroits offre un décor presque irréel. Des rues désertes et des bâtiments fermés ou murés par centaines.
Être placé en état de faillite pour éviter de payer ses dettes. Plus de 18 milliards de dollars que la ville de Détroit doit à plus de 100 000 créanciers.
Oui, il y a 97 000 fonctionnaires et 19 000 à 20 000 retraités, mais il y a 700 000 citoyens qui ne méritent pas une dégradation permanente.
Le chômage atteint des niveaux records, mais la population, elle, veut croire en son avenir.
C'est le cas de John George à la tête d'une organisation caritative reconnue par la mairie.
D'ici un an, notre but est d'abattre toutes les maisons qui sont dans cette rue.
On voudrait que ce soit joli, propre, sûr et qu'on y vive bien, comme avant.
Vivre bien comme avant, c'est le souhait des habitants de la principale ville du Michigan. Et c'est peut-être le début d'une renaissance pour Détroit, reine déchue de l'industrie automobile américaine. En effet, il y a une dizaine de jours, la justice américaine a approuvé un plan pour sortir de la faillite, la plus importante dans l'histoire des villes aux États-Unis, en renégociant cette dette abyssale de la ville de près de 18 milliards de dollars. L'un des objectifs, c'est bien d'en finir avec les 80 000 bâtiments abandonnés qui jonchent la ville, attirant d'une part les squatteurs et les trafiquants, et d'autre part les photographes et autres touristes étrangement fascinés par l'esthétisme des ruines. Détroit est l'emblème de ces shrinking cities, ces villes rétrécissantes sous l'effet conjugué de la crise économique et du déclin démographique. Alors si elles sont souvent associées à la décroissance urbaine des villes industrielles américaines et allemandes dans les années 70-80, elles touchent désormais un certain nombre de grandes villes du monde, d'abord européennes et depuis les années 90, également celles des pays émergents. En outre, elles sont souvent liées à la suburbanisation qui engendre conflits et crises financières dans les villes-centres. Mais l'étalement urbain traduit-il nécessairement une perte de richesse? Ce phénomène de shrinking cities est-il synonyme de déclin urbain ou peut-on au contraire imaginer des effets positifs de cette désertion des centres? Pour évoquer cette question ce matin, pour évoquer ces villes en déclin, on a invité deux personnes. D'abord Sylvie Foll, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes professeure en aménagement et urbanisme à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes responsable, je crois, du master aménagement.
Oui.
Et puis également avec nous, Flaminia Padeou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géographe, vous êtes doctorante à l'Université Paris 4, enseignante, un spécialiste de Détroit, on va le voir, on va en parler avec vous, et en particulier de ces quartiers défavorisés. Vous avez cofondé cette revue Urbanité. D'ailleurs, le cinquième numéro sera intitulé « Ville et châtiments ». Ça tombe bien, on va en parler aujourd'hui. Et puis, autre titre que je n'ai pas mentionné, mais Flaminia Padeou, vous avez travaillé pendant une semaine à Culture Monde. Et puis voilà, aujourd'hui, donc, à ce micro. Hein, peut-être que les fans de l'émission ont peut-être entendu quelques fois votre nom crédité à l'antenne. Vous voilà donc ce matin avec nous à l'antenne pour parler de Détroit. Flaminia Padeou, vous avez entendu, donc après 16 mois de négociation, cette dette de 18 milliards de dollars a été renégociée. On a mis en place un grand plan de sortie de crise financière dans lequel se retrouve donc ce Motor City, ce Détroit. Le juge chargé de la médiation avec la justice, Gerald Rosen, a parlé d'un jour historique pour la ville. Alors, historique, pourquoi? Qu'est-ce qu'on a mis en place? Que prévoit l'accord? Je crois qu'il y a une partie de la dette d'abord qui va être effacée.
Oui, alors ce que prévoit l'accord, c'est qu'une partie de la dette va être effacée, une partie assez conséquente de cette dette, hein, qui est de 18 milliards de dollars. Donc 7 milliards de dollars de la dette va être effacée. Outre cet effacement, il y a tout un système de renégociation qui a été mis en place place avec les créanciers. Donc un certain nombre de créanciers vont tout simplement accepter d'être moins remboursés. C'est le cas de Merrill Lynch, c'est le cas par exemple de la compagnie d'assurance FGIC, c'est le cas de Cincora.
Qui est un assureur, Cincora ?
Oui, c'est ça. Donc Cincora qui est un assureur qui va toucher seulement 14% de ce qu'il a investi. Donc il y a eu un certain nombre d'accords qui ont été mis en place. Notamment, Cincora va pouvoir mettre en place un complexe hôtelier, un complexe commercial en plein centre de Détroit, à la place d'un stade, le Joe Louis Arena, qui va être détruit. Et c'est, voilà, à partir de...
D'accord, donc elle récupère 14% de sa mise seulement, mais il y a peut-être des projets qui devraient lui rapporter à terme.
Il fallait bien qu'il y ait quand même des contreparties pour que les créanciers puissent accepter de perdre autant par rapport à ce qu'ils ont investi.
Bon, on est très triste pour Cincora, on est très triste pour la banque UBS, pour la Bank of America, mais quid des petits épargnants qui avaient aussi placé une partie de leurs économies dans les obligations de la ville ?
Alors pour les petits épargnants, ça va être beaucoup plus compliqué parce que eux finalement n'ont pas tellement de contrepartie et se retrouvent avec aucun retour sur leurs investissements, ce qui pose d'énormes problèmes pour tous ces épargnants, contrairement aux grands groupes qui ont finalement réussi à beaucoup mieux négocier ce plan et cet accord.
Et évidemment, il y a un point qu'il faut mentionner, c'est le fait que maintenant, désormais, les finances de la ville vont être placées sous le contrôle d'une commission.
Oui, bien sûr.
C'est pas, on n'a pas gratuitement effacé une partie de la dette.
Non,
c'est
non, pas du tout.
En échange de ce contrôle très ferme, très strict des finances de la ville.
De toute manière, il y a une histoire finalement très longue de contrôle des finances de Détroit. Bien avant que la ville soit mise en faillite, l'État du Michigan avait déjà dépêché un administrateur judiciaire, hein, Kevin Orr, qui avait joué un grand rôle dans la restructuration financière de Chrysler, qui était là et finalement qui gelait toutes les finances, toutes les dépenses de la ville de Détroit, qui étaient soumises à son accord et finalement à un droit de regard de l'État du Michigan. Donc finalement, le fait qu'il y ait une commission qui regarde les dépenses de Détroit de très près pendant les décennies à venir, c'est quelque chose qui n'est pas tellement nouveau pour la ville de Détroit.
Je parlais des petits épargnants, il y en a d'autres aussi, les retraités des services municipaux qui ont concédé de gros, très gros sacrifices. Il y a une baisse de leur pension qui, par ailleurs, ne sera plus indexée sur le coût de la vie, des remboursements de frais de santé qui seront bien inférieurs à ce qu'ils étaient, eux aussi vont payer.
Effectivement, il y a une baisse de 4,5% sur les pensions des retraités. Alors, les retraités des services de police et des services de pompiers ont un petit peu mieux négocié. Hein, ce ne sera qu'une baisse de 2,2%. Mais globalement, ils vont devoir dire adieu effectivement à certains, une certaine partie de cette retraite. Et de même, en termes de frais de santé, il va y avoir un certain nombre de réductions, un certain nombre de remboursements qui ne vont pas être effectués. Et effectivement, c'était un peine perdue pour les employés municipaux, pour les retraités, vu en fait le déséquilibre démographique qui s'est petit à petit mis en place. Aujourd'hui, on estime qu'il y a 30 000 employés municipaux, en comptant les retraités municipaux à Détroit. Il y a 10 000 personnes en activité environ et 20 000 retraités. Donc effectivement, ces retraités étaient dans une situation très problématique financièrement.
Continuons sur Détroit. On verra tout à l'heure avec vous, Sylvie Folle, que finalement, d'autres villes sont concernées par ce phénomène. Mais quittons un peu l'actualité, retournons un petit peu en arrière. L'année dernière, Barack Obama met en place cette coalition de pouvoirs publics et privés, la Detroit Blight Removal Task Force. Blight Removal, c'est-à-dire en gros enlever la rouille, qui aura la charge de démanteler les dizaines de milliers, je disais 80 000 structures en près de 5 ans. Alors, beaucoup doutent un petit peu de la tenabilité du calendrier, mais en tout cas, voilà ce qu'on a prévu. Quelques milliers ont déjà été détruites. Il faut augmenter la cadence pour arriver à quoi, 400, 500 structures par semaine, en théorie. C'est un travail colossal, Flaminia Padeu, qui paradoxalement va apporter du travail aux gens.
Oui, c'est un travail colossal et c'est aussi quelque chose d'extrêmement coûteux. On estime que pour démolir une maison, ça coûte 8 500 $ environ. Alors qu'aujourd'hui, pour acheter une maison, il suffit de 500 $. Donc, ça coûte beaucoup plus cher de démolir une maison à Détroit que d'acheter une maison.
Qui va payer ?
Y a des fonds.
L'État, la ville ?
Il y a des fonds qui ont été mis en place pour la démolition. Donc la ville finance une partie de la démolition. Et il y a aussi des fondations qui ont fait des donations. Notamment, c'est un des points importants qu'il faut souligner quand même dans cette renégociation de dette. C'est la place que les fondations philanthropiques ont eue dans cette renégociation. C'est assez inédit. Bon, déjà, cette négociation de la faillite a été très rapide, hein, 16 mois. Mais surtout, il y a eu 816 millions de dollars qui ont été investis par la Ford Foundation. Bon, ce qui est assez intéressant à noter quand même vu l'histoire de Ford dans cette ville, de la Knight Foundation, de la Kresge Foundation, et on observe en fait dans les chiffres, enfin depuis ces 10 dernières années, une augmentation vraiment exponentielle des investissements des fondations dans Détroit. Et effectivement, pour ce qui concerne par exemple le renouvellement des infrastructures pour les pompiers, pour la police, des voitures qui vont être modernisées, pour enlever les infrastructures en ruine. Effectivement, les fondations participent énormément à ces travaux de modernisation des infrastructures.
Et puis autre chose inédite, Flaminia Padeu, le fait qu'on va essayer de faire les choses, j'allais dire proprement, autant que faire se peut, en tout cas, respecter un peu l'environnement, recycler un maximum de matériaux, c'est aussi un des objectifs.
Oui, c'est un des objectifs.
On verra
ça,
si
ça
sera
paraît
tenu,
compliqué
mais...
pour l'instant. C'est vrai que ça se fait déjà dans certaines toutes petites organisations, comme on dit, grassroots là-bas, qui sont populaires. Notamment, il y a un projet d'une organisation qui s'appelle le Worm Project et qui déconstruit les maisons qui sont abandonnées. Le principe de la déconstruction, c'est justement au lieu de démolir une maison à coups de bulldozer, finalement, on enlève pièce par pièce. Des briques, des poutres, etc., pour ensuite les recycler sur le marché. Donc oui, c'est possible, mais effectivement, ça prend du temps. Ça demande de la force de travail. Effectivement, ça donne du travail. Toujours, enfin, pour autant, il faut trouver une main-d'œuvre sur place qui est formée et qui sera prête à participer à cet effort.
Sylvie Foll, vous confirmez, ce phénomène des shrinking cities, ce n'est pas un phénomène exclusivement lié à Détroit. C'est quelque chose d'extrêmement global, d'extrêmement mondial et d'ailleurs qui ne concerne pas seulement les pays développés, ce qu'on pourrait penser.
En effet, donc...
Les pays de désindustrialisation, enfin, on voit désindustrialisation.
Non, ce qu'on peut constater, c'est qu'en effet, c'est un phénomène donc, qui s'étend de plus en plus. Et donc, ça a été démontré dans un certain nombre de travaux, donc, en particulier donc, de UN Habitat donc, dans la dernière période, que de plus en plus de villes donc, sont en déclin.
Et en même temps, ce n'est pas un phénomène nouveau.
Non, ce n'est pas un phénomène nouveau. En effet, mais en tout cas, ce qu'on constate, c'est une extension du phénomène qui était jusque-là, donc... finalement assez contenu et bon, qui se concentrait donc dans des villes effectivement industrielles, bon, qui avaient connu donc une décroissance donc de leur appareil industriel et du coup donc une décroissance de leur population concomitante. Aujourd'hui donc ce phénomène s'étend et atteint y compris des pays donc émergents ou en voie de
Vous êtes géographe, faisons une petite carte des shrinking cities.
Alors, bon, si on regarde une carte des Shrinking Cities, on s'aperçoit quand même qu'elles sont concentrées pour l'essentiel dans la partie nord du monde, dans les pays du nord, et ensuite avec des concentrations donc particulières au Japon, donc qui est vraiment donc un pays qui est extrêmement touché, dans la partie donc Middle West de l'Amérique du Nord, dans la partie donc orientale de l'Europe, mais on commence à voir donc un certain nombre de poches donc de shrinking cities qui apparaissent donc au Brésil, dans certains pays d'Asie du Sud, y compris donc la Chine, mais qui touchent pas exactement donc les mêmes catégories de villes.
L'Europe de l'Est, vous dites Europe orientale, mais ça concerne aussi certaines villes d'Europe du Sud. Alors, Lisbonne, Porto.
Oui, alors certaines villes d'Europe du Sud, alors pas exactement pour les mêmes raisons, et bon, pas exactement dans les mêmes conditions non plus, mais effectivement, donc, du fait d'un déclin démographique qui se répand donc, dans les pays du Sud de l'Europe, certaines villes sont effectivement touchées dans ces régions.
Donc ça veut dire que ce phénomène-là, il n'est pas seulement lié au phénomène du déclin économique. Il y a d'autres raisons.
Non, ce qu'on pourrait dire.
Notamment les raisons démographiques.
Ce qu'on pourrait dire, c'est que c'est vraiment une conjonction de phénomènes, que c'est un processus qui est vraiment multidimensionnel et qui, à la fois, donc, bien sûr, a une composante économique qui est tout à fait déterminante et qu'il ne faut absolument pas négliger, quelle que soit la partie du monde, mais qui a ensuite donc, une composante démographique qui est importante. C'est-à-dire que, bon, dans les pays qui commencent à être touchés donc, par la baisse de la natalité, par le vieillissement de la population.
Là, c'est le Japon, typiquement.
Exactement. Et également donc l'ex-Allemagne de l'Est et les pays donc d'Europe de l'Est de manière plus générale. Donc là, on a cette conjonction donc du facteur économique et du facteur démographique qui accentue ce phénomène et vient aussi en accentuation du phénomène des facteurs politiques qui peuvent localement, à cause de politique nationale ou à cause de politique locale, accentuer là encore donc les phénomènes.
Politique
de
locale, c'est-à-dire que par exemple, on parlait du Japon à l'instant. Par exemple, il n'est pas seulement lié ce phénomène aux raisons économiques et aux raisons démographiques. Il y a aussi d'autres raisons peut-être. Et notamment la question de l'optimisation des coûts.
Alors, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'au Japon, alors là, je me réfère donc aux travaux de Sophie Bunick, donc qui fait une thèse très intéressante sur ce sujet. Ce qu'elle démontre très bien, c'est qu'au Japon, donc il y a effectivement donc la prédominance de ce facteur démographique, donc dans l'explication des processus de déclin, mais il y a aussi une stratégie donc là menée au niveau national, qui consiste à regrouper les forces, si on peut dire, à concentrer donc la richesse et les investissements dans les centres des grandes métropoles, et évidemment. dans un contexte de vieillissement et de perte de population et d'économie qui est relativement stagnante, ça a pour effet, cette politique, d'assécher, d'aspirer finalement la richesse donc des périphéries, alors qu'elles soient rurales, petites villes, ou y compris donc périphéries des métropoles, pour concentrer donc cette richesse et cette population dans les centres des grandes métropoles.
Mais dites-moi, vous qui êtes une spécialiste du territoire, comment est-ce qu'on fait quand on a mis en place, il y a 30, 40, 50 ans peut-être, des systèmes de transport, par exemple, si on change comme ça le tissu de la ville, ils deviennent de fait beaucoup moins efficaces qu'ils ne l'étaient.
Alors effectivement, c'est un problème. Alors c'est un problème au Japon, mais aussi dans d'autres parties du monde. Alors au Japon, donc on a un phénomène très particulier où ce sont donc des, non pas des compagnies publiques, mais des compagnies privées, donc ferroviaires, qui ont contribué donc au développement urbain des agglomérations et qui ont aussi donc contribué à la croissance urbaine et à l'étalement donc de ces agglomérations. Donc dans une période de croissance économique et de croissance démographique, aujourd'hui donc dans un contexte de stagnation voire de régression démographique, les banlieues donc qui s'étaient urbanisées dans la période de croissance se trouvent aujourd'hui donc en situation de vieillissement, de dépopulation et d'appauvrissement général, et avec donc un vrai problème de rentabilité donc de ces compagnies ferroviaires.
Et donc on ferme les stations, voire même les lignes.
Non, on ne ferme. Alors on n'est pas encore exactement dans cette situation-là. C'est un risque. Aujourd'hui, les compagnies privées s'adressent aux collectivités locales pour financer donc le maintien du niveau de service, mais évidemment,
on ne ferme pas encore des lignes de métro, des lignes de bus, des lignes de train. Alors, on n'en est pas encore là au Japon.
Non, on n'en est pas encore là.
Parce qu'on imagine l'effet rétroactif que ça pourrait avoir. Vous fermez une station, vous fermez une ligne. Évidemment, les sociétés ne sont plus, les entreprises qui sont tout autour de ces lignes de transport ne sont de fait plus irriguées. Et en retour, on peut imaginer que ça engendre des fermetures d'entreprises, de sociétés.
Oui, effectivement. Et ça, c'est vraiment donc, ce qu'on peut appeler le cercle vicieux du déclin. Alors, qui au Japon prend cette forme-là, mais qui dans d'autres contextes prend encore d'autres formes. Et donc, on a des spirales de déclin qui se mettent en place avec à la fois donc une baisse donc du niveau de service public, une baisse de l'accessibilité aux services et donc une moindre attractivité pour les gens, des départs de population donc croissants et donc finalement un phénomène qui s'auto-entretient et qui devient de plus en plus difficile.
Vous disiez c'est un phénomène mondial, phénomène global. On n'a pas parlé de la Chine, évidemment. On est toujours extrêmement impressionnés par cette Chine et ce taux d'urbanisation en plein essor. Pour pas dire qu'elle a littéralement explosé ces dernières années, ces dernières décennies. Plus de 52% de la population en Chine vit maintenant dans des villes. Rassurez-nous, la Chine n'est pas concernée par le rétrécissement urbain, quand même.
Alors, pas rétrécissement urbain au sens où on peut l'entendre donc dans les vieux pays développés, c'est clair. Mais en revanche, certains de nos collègues donc du groupe de recherche international dont je fais partie ont travaillé donc sur la situation chinoise et ont montré que du fait, là encore, de la concentration des richesses donc dans les grosses métropoles, du fait d'un contexte général de compétition entre les villes, les petites villes se trouvent aspirées, leur population se trouve aspirée donc, par ces grandes villes. Et du coup, on peut avoir ponctuellement, dans certaines régions et dans certaines petites villes,
des villes qui se vident.
Alors, qui se vident, oui, enfin des villes qui ont vraiment...
Qui perdent de la population.
Voilà, qui perdent de la population, en effet.
Revenons sur Détroit, Flaminia Padéou. Vous le disiez, aujourd'hui, on peut acheter des maisons pour trois fois rien, pour 1 000 $, même parfois moins. Est-ce qu'il n'y a pas des acteurs qui essayent de profiter de la situation, qui cherchent à faire des affaires? Après tout, on pourrait être tenté d'acheter une maison, des quartiers, même pourquoi pas, attendre quelques années, et puis espérer que lorsque la ville reprendra de sa vigueur, eh bien, on revendra tout ça et qu'on fera une énorme plus-value.
Oui, ça arrive depuis quelques années. C'est vrai qu'il y a un énorme risque de spéculation à Détroit qui est lié à cet effondrement du prix du foncier.
Mais il y a plus qu'un risque ?
Non, oui, il y a un risque, je veux dire, croissant. Ouais. Mais ça existe déjà. Il y a un quartier dans l'Issei de Détroit qui a été investi par une entreprise qui s'appelle Hansform, qui a racheté 1500 terrains alors pour faire un projet d'agriculture urbaine. Donc ça, c'est un des exemples de ce qu'on peut faire avec tout ce terrain qui est acheté. Pour autant, c'est... Finalement, on fait confiance à ce que propose l'acheteur, mais il n'y a aucun contrat qui garantit que l'acheteur va bien faire de ce foncier ce qu'il a prévu d'en faire. Ces derniers temps, on a aussi d'autres exemples d'achats comme ça en masse. 1000 maisons, il y a encore 6 mois. Et surtout des acheteurs étrangers. Il y a des acheteurs des acheteurs chinois qui ont été aussi à Détroit pour acheter des milliers et des milliers de blocs. Et puis, il y a l'action très importante de Dan Gilbert, qui est la plus médiatisée, donc le président de Quicken Loans, qui lui a acheté énormément de foncier, mais surtout d'immobilier, donc des choses quand même déjà qui peuvent être très, très vite réhabilitées. Lui, il se concentre surtout sur le centre-ville de Détroit et il a vraiment une stratégie d'implantation des entreprises et de sécurisation de ce centre-ville pour attirer des entreprises.
On va parler de cette ville renaissante, justement, tout à l'heure. Mais d'abord, restons sur la question de la restructuration, de la manière dont on cherche à transformer cette ville-là. Selon quelle logique on pense cette restructuration ? J'imagine qu'on ne va pas détruire, par exemple, tout immeuble où il y aurait, je ne sais pas, moins de 40% d'occupation ou que sais-je. Quelles sont les logiques que l'on suit pour raser des buildings, peut-être rassembler de la population dans d'autres ? Enfin, comment on fait concrètement ?
Alors, pour l'instant, il y a un plan urbain qui a été mis en place, alors qu'il n'est pas un plan officiellement mis en place par la ville de Détroit, mais qui est quand même un plan qui est suivi par le nouveau maire de la ville, Mike Dugan. Donc, c'est le plan de Detroit Future City, qui date de 2012, qui a établi un certain nombre de cartes, et notamment un carte des densités urbaines, et qui, par exemple, peut repérer des densités, enfin, certains quartiers où la densité d'occupation est, par exemple, inférieure à 20%, donc elle est vraiment très faible. Et du coup, la proposition, ce serait une restructuration d'îlots de forte densité, et d'îlots de très faible densité. Donc les îlots de forte densité permettraient du coup d'assurer un certain nombre de services, comme l'éclairage, le ramassage des ordures, les transports en commun. Et en revanche, les îlots de faible densité seraient consacrés à d'autres usages.
Et alors comment on pousse les gens justement à aller plutôt vers des îlots qu'on prévoit être des îlots d'habitation? Et puis, parce que vous parliez de l'éclairage, c'est très intéressant. On sait que Détroit, c'est une ville particulièrement mal éclairée. Alors c'est vrai qu'on a fait des efforts. J'ai regardé là dans les papiers ces derniers mois. On a mis en place, je crois, un millier quasiment de lampadaires. Mais est-ce que finalement ce manque d'éclairage, c'est seulement une question de moyens, ou est-ce que c'est pas aussi une manière peut-être pour les responsables, les responsables politiques, eh bien de pousser tout simplement les habitants à quitter certains quartiers?
Si, bien sûr. Une des raisons pour lesquelles les lampadaires pendant longtemps n'ont pas été remplacés, c'est parce que l'idée future, c'était effectivement de reconcentrer la population sur certains quartiers. C'est l'aspect le plus polémique de ce plan urbain. Alors, c'est possible d'utiliser certaines mesures d'expropriation, mais dans la ville, il y a un certain nombre de réunions qui ont été tenues à l'occasion de ce plan urbain. Et les réunions qui concernent évidemment le déplacement des populations sont les réunions qui attirent le plus d'habitants de Détroit, qui mobilisent beaucoup dans cette ville qui est quand même, où si vous voulez, la solidarité dans certains quartiers est parfois très faible. C'est difficile quand on est 3-4 habitants sur un bloc où avant il y avait 60 habitants, de défendre ce bloc et de dire que non, on a le droit de rester. Donc voilà, il y a un problème de masse pour défendre encore ces quartiers. Mais on peut penser que cette restructuration ne va pas être aussi facile que prévu et que certains habitants, effectivement, vont résister à cette restructuration.
Vous avez parlé du maire de la ville, Mike Dugan. Je voudrais qu'on en parle un instant parce que, d'abord, il a une particularité. Cette ville de Détroit, c'est quand même une ville où vivent majoritairement des Noirs. Le premier maire de Détroit noir a été élu en 1973. Et aujourd'hui, vous le dites, donc c'est un démocrate et c'est un blanc. Il est arrivé à la tête de la ville. C'est doublement étonnant. D'abord parce qu'effectivement, c'est un blanc dans une ville à majorité noire. Et c'est d'autant plus étonnant parce qu'en plus, c'est un homme qui n'habitait même pas dans la ville, qui a dû se présenter en tant que write-in candidate. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous n'habitez pas la ville, vous ne pouvez pas être inscrit sur le bulletin. Donc, en gros, les électeurs doivent eux-mêmes écrire à la main le nom de la personne pour pouvoir l'élire. Donc, comment expliquer que cet homme qui est blanc et qui n'habite pas Détroit ait été élu maire de Détroit? Moi, ça m'interroge.
C'est effectivement très étonnant, et surtout depuis 1973, il n'y avait pas eu de maire blanc. Effectivement, il y avait eu une succession de maires noirs. Déjà, je pense qu'il y a quand même une forte tradition de vote démocrate à Détroit. Donc son appartenance quand même et son rattachement au Parti démocrate a énormément joué. Dans un État du Michigan qui est républicain, qui est considéré comme ayant abandonné Détroit, je pense qu'effectivement, ça a beaucoup joué. Je pense que son concurrent, l'autre candidat, effectivement, était aussi un mauvais candidat, il faut bien l'avouer, et que malgré sa couleur de peau, ça n'a pas du tout suffi, parce que ses propositions n'étaient pas du tout à la hauteur de ce qu'attendaient les habitants. Et je pense qu'en fait, le maire de Gannes a été l'un des premiers hommes politiques qui finalement a accepté dans les discours médiatiques l'état de déclin de Détroit. Si vous voulez, on a observé dans les discours politiques précédents qu'il y a une sorte de continuité d'un discours finalement dans une logique de croissance.
Et c'est pas l'idée... seulement dans les discours, pardonnez-moi de vous couper, Flaminia Padéou, mais c'est lui qui avait par exemple redressé le centre hospitalier. Il y a 8 hôpitaux dans la ville, il avait récupéré ça, il avait géré ça comme il pouvait, il avait revendu un opérateur privé en 2010, donc c'est peut-être aussi ce côté gestionnaire qui a fait...
Oui, c'est ça, c'est quelqu'un qui rassurait par son côté gestionnaire et à la fois qui proposait... On va dire une solution pour Détroit dans sa situation actuelle, qui n'était pas finalement une reproduction du modèle passé de Détroit, puisqu'il a acté finalement le fait que Détroit ne pouvait plus retrouver sa splendeur passée, mais pouvait trouver une autre voie vers un rétablissement.
Les tensions interethniques, on sait que la ville a longtemps été traversée par des tensions raciales, il y a eu... plusieurs émeutes d'ailleurs, il y a évidemment celle de juillet 67 avec ses 43 morts, 500 blessés, des milliers de bâtiments détruits, incendiés, avec ce président Johnson qui envoie carrément l'armée pour appuyer la police locale, mais il y avait déjà eu en 1943 une série d'émeutes. Est-ce que ces tensions interethniques, elles sont aujourd'hui toujours aussi fortes ?
Oui, alors elles se font beaucoup plus sur un plan symbolique, social et économique que finalement en termes de violence aussi forte que les émeutes de 1943 et de 1967. C'est encore un vrai problème. Ce qu'on oublie souvent de dire, en fait, c'est que Détroit est une ville noire à 83%, mais qu'elle est entourée d'une banlieue majoritairement blanche et plutôt aisée. Par exemple, dans la ville de Grosse Pointe, 93% de la population est blanche et le revenu moyen par foyer... dans l'année est 4 fois supérieur à celui de Détroit. Donc voilà, il faut rappeler cette situation. Aujourd'hui, en fait, il y a une étude scientifique assez intéressante qui est parue récemment, qui a été faite par un chercheur de l'université de Wayne State à Détroit, qui a essayé finalement de s'intéresser aujourd'hui aux leaders un peu de la reconstruction de Détroit. Et il s'est rendu compte qu'en fait, 70% de ces leaders qui étaient, si vous voulez, soutenus par des fondations ou par des organisations officielles étaient blancs. Donc, si vous voulez, encore aujourd'hui, alors que c'est une ville qui connaît des tensions raciales très importantes, on a l'impression que même dans les projets de reconstruction, il y a une sorte de reproduction encore d'une domination de, finalement, la minorité blanche sur la majorité noire et pauvre de la ville.
Avant de passer à la question de la reconstruction, vraiment, Flaminia Padéou, encore toute dernière question sur les départs. Je le disais tout à l'heure dans mon introduction, je crois qu'au plus fort en termes de démographie, on était à peu près 2 millions d'habitants sur Détroit.
1,8 million d'habitants.
On est à aujourd'hui 700 000, en gros. Comment se sont faits les départs ? Est-ce que tout ça s'est fait, j'allais dire, de façon régulière, au fur et à mesure, ou est-ce qu'il y a eu des à-coups, des grands moments de départ ?
Oui, alors, il y a eu des grands à-coups de départ, finalement, qui ont un petit peu suivi les chocs de l'industrie automobile. Donc, les départs, en fait, ont commencé assez tôt. Donc, c'est vrai que c'est l'historien Thomas Suglu qui a montré ça. Dès les années 60... Donc, entre 1947 et 1963, il y a eu 134 000 emplois qui ont été perdus. Donc, ce qui est différent, hein, bien sûr, des départs. Mais il y a eu effectivement un gros pic de chômage dès ces années-là qui a provoqué des départs de population. Et ensuite, on peut estimer que les chocs pétroliers dans les années 70 et l'introduction des voitures japonaises sur le marché américain dans les années 90 a correspondu aussi à des phases de départ de la population. Et... plus récemment, dans la décennie 2000 et 2010, il y a quand même 240 000 habitants qui ont quitté Détroit. 240 000 habitants, c'est l'équivalent du 15e arrondissement. C'est comme si en 10 ans, à Paris, on perdait le 15e arrondissement.
C'est quoi le profil des gens qui sont partis ? Est-ce que c'est plutôt les plus pauvres, les noirs ? Est-ce que c'est plutôt les plus favorisés, les blancs ? Je caricature.
Oui, pour caricaturer, c'est plutôt les plus favorisés, hein, et notamment les blancs. C'est vrai qu'à partir des années 50 et 60, on peut parler d'un phénomène de white flight, hein, qui a touché beaucoup de villes américaines, c'est-à-dire le départ de la population blanche et aisée vers les banlieues. Et effectivement, l'appauvrissement de la ville de Détroit est lié au départ de la population, mais au départ de sa population la plus aisée. D'accord ? La population qui n'est partie n'était pas du tout représentative de la population qui était là dans les années 50-60. C'est vraiment la population la plus pauvre, effectivement, qui est restée.
Sylvie Folle, c'est à peu près la même chose à chaque fois qu'on est en présence d'une shrinking city. Ceux qui partent, c'est ceux qui ont les moyens de partir. Ceux qui restent, c'est ceux qui n'ont pas les moyens.
Oui, donc on est vraiment dans des phénomènes de captivité résidentielle, hein, qui se qui se développent. Donc à la fois donc, les populations les plus qualifiées, les plus à même de s'en sortir ailleurs, donc qui vont quitter la ville, et ne restent donc dans la ville en déclin que les populations les plus fragiles, les plus pauvres et les plus démunies, donc sur le plan à la fois donc, des possibilités de reconversion donc, d'emploi, mais aussi sur leur plan le plan de leur capacité donc, à bouger.
Ah bah justement, la capacité à bouger, la capacité à se projeter, reconstruire, on va en parler maintenant.
Alors ça, vous voyez, c'est le premier immeuble qu'on a racheté. On l'a appelé le Cube. Celui-ci, c'est le deuxième. C'était un ancien bâtiment fédéral.
Cet homme au chapeau, c'est Bruce Schwartz, le numéro 2 d'un groupe qui a déjà racheté 40 immeubles à Détroit. Bruce est l'associé du milliardaire américain Dan Gilbert, un homme accueilli en sauveur dans la région.
Nous avons besoin de place de toute façon, alors pourquoi ne pas installer nos employés dans un super environnement et un centre urbain? C'est grâce à cela qu'on arrivera à créer une mode et une tendance qui en attirera d'autres.
Pour vaincre le côté sombre de la ville, le groupe a aussi fait déménager sa partie pré-bancaire et sa cohorte de jeunes cadres qui désormais ne jurent que par le dynamisme de la ville.
Il y a quelques années, à Détroit, on vous disait « Fais gaffe, ne baisse pas tes vitres la nuit, hein ?» Maintenant, c'est « Waouh, j'entends plein de choses super à Détroit. Ah, tu bosses dans la finance, c'est fantastique. Vous faites beaucoup de choses pour la ville. Ça devient positif. »
Et la ville attire même les start-up. Si votre projet est viable, vous pourriez très bien vous le faire entièrement financer par Gabe Karp, un autre associé du milliardaire. Ensemble, ils ont déjà attiré une centaine d'entreprises issues du numérique. Grâce à eux, 20 nouvelles start-up sont créées ici chaque année.
À Détroit, il y a de la loyauté, un vrai esprit d'entraide. Les gens ont vraiment envie d'écrire ensemble le nouveau chapitre de la ville.
France Culture, Culture Monde,
Florian Delorme.
Voilà, on entendait Bruce Schwartz, l'associé donc de Dan Gilbert, dont vous parliez tout à l'heure, Flaminia Padeu. C'est un extrait d'un reportage qui avait été diffusé au début de l'année sur France 2. Dan Gilbert, qui est donc un milliardaire natif de la ville et qui a fait fortune dans la finance et qui est aujourd'hui le chef de file de cette relocalisation à Détroit. Détroit, donc ce nouvel Eldorado, peut-être pour ces entrepreneurs aussi qui veulent se lancer dans le business. Vous écrivez, je vous cite, « Dans un contexte de crise, la création artistique et l'innovation constituent deux directions créatives. Faire de l'art à partir de ruines, faire de la crise un moteur de création. Créativité via le do-it-yourself. Attirer la classe créative et développer des politiques urbaines culturelles sont autant d'options anti-crise à évaluer. Dans quelle mesure est-ce que justement concernant Détroit, est-ce qu'on a mis en place ces politiques visant à attirer cette classe créative et est-ce qu'elle est déjà arrivée à Détroit ?
Alors, elle est arrivée à Détroit en partie. Elle est arrivée à Détroit déjà dans le centre de Détroit. Toutes les initiatives dont on entend parler autour de Dan Gilbert et l'arrivée de la population créative concerne vraiment une toute petite partie de la ville. Dans cette partie de la ville, dans ce centre-ville, effectivement, on a repéré dans les 5 dernières années vraiment une croissance très importante d'une population de moins de 35 ans qui a un diplôme de bac plus 5, un équivalent de bac plus 5. Pour autant, on n'a pas observé d'effet d'entraînement à l'échelle de l'ensemble de la ville. Donc voilà, il faut faire attention aussi aux généralités. Il faut comprendre aussi que, à travers certains travaux qui ont été faits, qui contestent notamment les théories de Richard Floridin sur la creative class et le rôle qu'elle joue dans le dynamisme des villes, que finalement, les facteurs culturels et les aménagements culturels qui sont présents dans une ville, la présence de musées, de cinémas par exemple, permettent de conserver cette classe créative, mais en revanche, n'attirent pas particulièrement à long terme une population sur place. Donc pour qu'une population reste...
D'accord, donc faut pas rêver non plus. C'est un peu présomptueux de penser qu'on va faire de la culture, finalement, le moteur d'un nouveau dynamisme pour cette ville-là.
Pas du tout. Il ne faut pas confondre les mobilités touristiques, par exemple. Et c'est vrai que dans les mobilités touristiques, ce sont des infrastructures qui attirent beaucoup, et des mobilités à beaucoup plus long terme, où effectivement, il faut... faire venir sa famille, nourrir sa famille et donc avoir un emploi. Et donc ici, la question de l'emploi joue beaucoup plus que celle des aménités culturelles.
Et on y croit à Détroit. Est-ce que les artistes, les entrepreneurs, j'imagine, puisqu'ils se sont déplacés jusqu'à Détroit, c'est qu'eux, ils pensent qu'on va pouvoir redonner vie à cette ville via cette nouvelle créativité culturelle.
Oui, alors c'est vrai que Détroit est devenu une sorte de support à mythes ces dernières années et que la question de la création artistique en fait partie. Alors, C'est un peu comme dans le principe de la gentrification. C'est une ville qui avait un prix du foncier très bas et de la place. Et donc, qui a attiré des artistes qui, finalement, se retrouvent dans une ville où c'est un peu comme un atelier à ciel ouvert. Il y a des matériaux un peu partout qui permettent de faire des expérimentations artistiques. Moi, j'ai rencontré quelqu'un à Détroit, un artiste, qui avait racheté une école abandonnée pour y faire des installations artistiques. Donc,
la grande vitrine artistique à Détroit, c'est le Heidelberg Project.
Oui. Effectivement, ce projet est intéressant parce que il s'insère vraiment dans le déclin et dans les manifestations esthétiques du déclin, puisqu'il récupère des objets trouvés dans les rues pour en faire des statues et des installations, avec cette idée aussi qu'en même temps, il nettoie le quartier et il donne un aspect beaucoup plus policé.
Et ça marche, ça attire les touristes ?
Alors, Heidelberg Project, oui, attire beaucoup les touristes, ce qui est assez étonnant parce qu'on est en plein East Side, qui est un quartier où il n'y a aucun touriste. Et tout d'un coup, il y a une sorte de poche où on voit beaucoup de populations blanches juste autour du Heidelberg Project. C'est des projets qui sont intéressants, qui, à l'échelle locale, peuvent créer certaines synergies. Ils travaillent beaucoup avec les écoles, notamment. C'est vrai que les écoles sont dans des situations dramatiques à Détroit. Les projets éducatifs de loisirs sont très, très peu financés. Il y a eu aussi énormément de coupes budgétaires. En revanche, c'est aussi des projets parfois qui ne sont pas très bien acceptés par la population locale.
C'est ce que j'allais vous demander, comment est-ce qu'on voit tout ça ? Parce que j'imagine que quand on est un Américain, qu'on vit à Détroit depuis longtemps, le fait que les artistes et en particulier les photographes viennent comme ça sur ces ruines, voir le déclin de la ville et en profitent pour en faire leurs matériaux, bon, c'est pas forcément très plaisant pour les habitants.
Là encore, les tensions raciales jouent, parce que c'est vrai que dans l'arrivée de cette nouvelle population et dans ces artistes, c'est beaucoup des jeunes blancs éduqués. Et ensuite, il y a vraiment une question de génération qui a été marquée par des modèles et des images différentes de Détroit. Une population plus âgée qui est présente à Détroit depuis longtemps a vécu l'âge d'or de Détroit, voire même est venue à Détroit du sud des États-Unis parce que c'était un symbole de modernité, parce que les salaires étaient élevés, parce que c'était une ville dynamique. Et en fait, aujourd'hui, c'est inacceptable et inenvisageable pour eux de faire de cette crise et de ce déclin un moteur de la créativité.
Et est-ce que le monde de la culture, et je vous passe la parole Sylvie Folle pour réagir sur ce point-là, mais est-ce que le monde de la culture américain, est-ce que les institutionnels, au fond, soutiennent cette démarche ?
Oui, plutôt.
Plutôt.
Il y a autour du musée d'art contemporain, le MOCAD, avec le musée des Beaux-Arts de Détroit et avec un certain nombre de fondations. La culture est vraiment un pôle d'investissement majeur à Détroit ces dernières années.
Mmh. Il y a beaucoup de villes, Sylvie Folle, qui ont fait ça en voyant qu'elles se vidaient. Finalement, qui a accueilli, d'ailleurs, en le voulant ou pas d'ailleurs, des artistes venus du monde entier. On a vu ça dans plein de villes, non ?
Oui, il y a vraiment. Enfin, on peut parler là vraiment de stratégie classique, entre guillemets, donc anti-déclin. Et donc, c'est vrai que la plupart des villes donc, qui se trouvent en situation de déclin comme Détroit, alors aux États-Unis, mais aussi en Europe, on se retrouve exactement dans les mêmes configurations. Pense que il faut absolument donc restaurer l'attractivité donc de la ville. Alors à la fois restaurer son attractivité résidentielle donc en attirant de nouvelles populations, mais aussi bon restaurer son attractivité économique donc en faisant venir donc des populations de la classe créative. On pense donc qu'elles vont pouvoir par leur capacité d'innovation, par leur créativité, donc insuffler de nouvelles dynamiques qui pourront à leur tour donc
Et ça marche. Alors Détroit, on va voir parce qu'effectivement c'est quand même très ambitieux de faire de Détroit une nouvelle, finalement, capitale culturelle, d'en faire aussi, pourquoi pas, parce que c'est pas seulement la culture, c'est aussi la créativité au sens large, et c'est aussi, pourquoi pas, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Je ne sais pas si la Silicon Valley va se déplacer vers Détroit, faudra voir, mais les résultats, ça donne quoi quand on regarde l'histoire un peu sur ces shrinking cities ?
Alors, est-ce que ça marche ? Alors, il y a un exemple emblématique qui est repris partout, c'est Bilbao. Donc, qui a réussi sa reconversion donc, de ville industrielle en déclin à ville créative, si on peut dire. Donc, avec des investissements publics, évidemment, très, très importants. Mais ensuite, donc, toute une dynamique qui, effectivement, s'est créée. Alors, est-ce que l'exemple de Bilbao est transposable partout ? Certainement pas. Et donc, il faut certainement donc, un contexte très... Enfin, une configuration locale, un contexte politique et économique donc, qui est très favorable et qui, bien entendu, ne fonctionne pas dans la plupart des villes en déclin.
Donc, c'est plutôt marginal, en fait, cette réussite. Plutôt.
Oui, on peut dire que c'est marginal, mais ça n'empêche pas la plupart des villes en déclin de poursuivre des stratégies de ce type, alors qu'elles ne sont pas toujours inintéressantes. Il y a Bon, un certain nombre de villes allemandes, par exemple, qui misent donc sur le développement culturel, mais un développement culturel plus fondé sur les traditions locales, par exemple sur la revalorisation du patrimoine industriel. Mmh. Donc, par exemple, la ville de Essen donc, a complètement revalorisé donc, son patrimoine industriel et en a fait donc, un atout, un argument culturel. Mais c'est tout à fait intéressant, parce que ça prolonge à la fois donc, un passé local industriel et en même temps, donc, ça contribue à l'attractivité touristique et à l'attractivité générale de la ville.
Vous y croyez, vous, Flaminia Padeu, Détroit va pouvoir s'en sortir grâce à la...
Je suis plutôt sceptique. Ouais. Y a certains travaux, notamment de Jeffrey Zimmerman, sur l'exemple de Milwaukee, qui sont assez intéressants pour
nous. Qui est
aussi
dans le Michigan.
Voilà. Non, qui est pas dans le Michigan, qui est dans le Wisconsin, mais par contre, d'accord, qui est dans la Rust Belt et qui a subi un peu les mêmes phénomènes de désindustrialisation. Et c'est vrai que les travaux donc des politiques créatives à Milwaukee ont montré que finalement, il y a eu une augmentation des inégalités dans une ville qui était déjà très inégalitaire et que ça n'a pas créé un effet d'entraînement à l'échelle de la ville, de croissance et de dynamisme. Donc c'est vrai qu'on peut penser que pour Détroit, alors qu'il y a des inégalités raciales et sociales très importantes, que finalement ça peut aussi proposer un avenir très compliqué, inégalitaire pour Détroit. Il ne faut pas oublier aussi que Détroit est une ville, certes aujourd'hui qui a moins de 700 000 habitants, mais qui est extrêmement étalée, qui est une très grande ville. Donc la question de la répartition, ce qu'on appelle le trickle-down effect, c'est-à-dire est-ce que s'il y a un quartier qui est dynamique et un pôle de dynamisme, est-ce que ça peut se diffuser ? Et cette question de la répartition et de la redistribution des bienfaits, elle ne peut se faire que dans un contexte aussi d'une gestion municipale égalitaire et qui participe à ça. Et on voit bien à quel point c'est compliqué, vu les problèmes financiers que connaît la municipalité, de pouvoir s'orienter vers un modèle de ce type.
Alors nous, Flaminia Padeu, on pense toujours, vu d'ici, que le cinéma américain, ça se passe d'abord et avant tout à Hollywood, ce qui est peut-être vrai, mais ça se passe aussi à Détroit.
Stop! Let go!
What you looking at, old man?
Ever notice how you come across somebody once in a while you shouldn't have messed with? That's me.
Are you crazy, man? Get out.
You okay?
We're gonna be fine. We have to do it. It's the right thing to do, and nothing bad happens when you're doing the right thing.
Is this your personal theory? Because I can shoot holes in it.
You being so reclusive in everything is probably only going to make people more interested in your music.
Yeah. What a drag.
Alors pour les plus cinéphiles, vous aurez peut-être reconnu Gran Torino de et avec Clint Eastwood, Les Marches du Pouvoir de et avec George Clooney et puis Only Lovers Left Alive de Jim Jarmusch. Trois films tournés à Détroit depuis quelques années. Les stars américaines défilent à Détroit. Hein, Demi Moore, Christopher Walken, Richard Gere, Scarlett Johansson, Jack Nicholson. En 2008, au plus fort de la crise économique, Jennifer Granholm, alors gouverneur démocrate du Michigan, a mis en place une fiscalité très généreuse, la plus favorable des États-Unis pour attirer l'industrie du cinéma, un crédit d'impôt de 42% des coûts de production. Mais avec l'arrivée du gouverneur républicain Rick Snyder en 2010, le rêve prend fin pour ce Détroit nouvel Hollywood. Comme nous l'explique Jimmy Bernstein, il est scénariste, il est professeur au College of Literature, Science and Arts à l'Université du Michigan, à Plymouth. Il est au micro de Tiffaine de Rocchini.
Il y a eu beaucoup de grands studios qui sont venus à Détroit. George Clooney a tourné Les Marches du Pouvoir ici. De nombreux films ont été tournés entre 2008 et début 2011. J'étais l'un de ceux qui a travaillé à faire venir ces studios.
I was one of the people behind why those films came. I was appointed by the governor Engler on his way out of office, asking me if I'd be part of this film commission.
J'ai été désigné par le gouverneur pour faire partie de cette commission sur le cinéma. L'objectif était de créer une loi incitative qui permette de bénéficier de taxes avantageuses, ce qui encouragerait les productions dans l'État.
And I thought Detroit had a lot of natural advantages because we did have experienced crew who had shot a lot of industrial film and made commercials. And
je me suis dit que Détroit présentait de nombreux atouts car nous avions des équipes expérimentées et des décors variés et somptueux.
In the state of Michigan, and so it took a long time, and I worked with former governor Granholm and other people like Mitch Albom.
Dans l'État du Michigan, vous pouvez avoir le décor que vous voulez, même si ça demande un peu de préparation, bien sûr. Ça a pris beaucoup de temps, mais on a réussi à attirer les meilleurs réalisateurs du pays. Et entre avril 2008 et février 2011, on a atteint le milliard de dollars avec ces productions. Mais à ce moment-là, un nouveau gouverneur a été élu. Et il était contre ce soutien fiscal. Il a donc supprimé le dispositif. Il ne voulait plus mettre que 25 millions de dollars là-dedans. Dès lors, on a eu quelques grands films et beaucoup, beaucoup de petits films, ce qui n'est pas ce que nous avions avant. Avant, le premier grand film qui est sorti des studios de Détroit est le film de Clint Eastwood, Gran Torino, qui, étonnamment, a été son plus grand succès dans les salles. Il a été entièrement tourné à Détroit. Nous avons fait passer la loi de réduction de la fiscalité en avril 2008, et elle ne serait jamais passée si Wall Street s'était effondré avant cela. Or, Wall Street s'est effondré seulement en octobre. À cette époque, tout le monde a commencé à perdre son travail à droite et à gauche. Et je racontais hier cette histoire à un écrivain pour la télévision qui est un ami à moi. Je lui racontais comment, au moment de Noël, en 2008, à une époque où le moral de la ville n'avait jamais été aussi bas depuis la Grande Dépression, le film Gran Torino était sorti et c'était le premier grand film tourné dans le Michigan. Et quant au générique, les gens ont vu « Fabriqué au Michigan », la salle entière a applaudi, parce que c'était la seule chose qui leur remontait le moral. C'était le seul espoir qui restait, qui montrait qu'on pouvait encore faire quelque chose. Je n'imagine pas dans quel état moral aurait été la ville s'il n'y avait pas eu ce boom avec tous ces acteurs, réalisateurs, producteurs. En 2010, il y avait, je crois, 100 000 chambres prises par des sociétés de production de cinéma à Détroit. 100 000 autres à Ann Arbor. C'était une période fabuleuse, et c'est une grande erreur d'avoir supprimé cette incitation fiscale. Il y a toujours des films qui sont tournés ici, mais ce n'est rien par rapport à ce que ça a été, ou à ce que ça aurait pu être. Hollywood, mis à part, on était le deuxième État après la Louisiane à fabriquer le plus de films aux États-Unis. Les grandes villes américaines feraient bien de regarder ce qui s'est passé à Détroit, parce que ça pourrait leur arriver. Mais ce qui est important à Détroit en ce moment, c'est ce premier signe d'espoir et de renaissance. D'aussi loin que je me souvienne, tout le monde avait le sentiment que Détroit avait touché le fond. Et la ville vient de sortir de cette faillite grâce à un plan de sortie historique. C'est la plus grande faillite d'une ville dans toute l'histoire des États-Unis. Les problèmes financiers qu'a eu New York n'étaient rien à côté de ceux de Détroit. Et le fait que Détroit se soit sorti de cette situation a donné aux gens un espoir nouveau que je n'avais pas vu depuis très très longtemps.
Jimmy Bernstein, donc scénariste qui a fait toute sa carrière à Hollywood, qui nous parlait donc de cinéma, qui pendant un temps en tout cas s'est dirigé du côté de Détroit. Flaminia Padeo, qu'est-ce que ça vous inspire? Parce que c'est vrai qu'on dit aux États-Unis que ce qui se passe à Détroit, en général ça se passe 10 ans après du côté des États-Unis. On sait que la santé financière, que la dette américaine est aussi très élevée. Est-ce que vous pensez que les États-Unis se retrouveront globalement dans la situation de Détroit aujourd'hui d'ici 10 ans?
Et qui feront des films pour relancer l'économie. Oui, effectivement, je pense que la place de Détroit, finalement, est assez, à la fois unique aux États-Unis, un peu comme la Nouvelle-Orléans, et à la fois ça dit quelque chose aussi de la société américaine. Ce que je trouve intéressant avec la question des films qui ont été tournés à Détroit, c'est qu'on voit finalement que, c'est pas que finalement le déclin apporte des opportunités, hein, ça peut être dangereux de ce genre d'affirmation, mais en revanche ce qui est incroyable à Détroit c'est la place que ça apporte, et on voit très bien aujourd'hui dans les villes à quel point le foncier c'est le nerf de la guerre. Enfin, David Harvey a montré à quel point dans l'urbanisation il y a une absorption du capital par le foncier et une production de valeur par le foncier. Aujourd'hui, je pense que la grande opportunité de Détroit, et on l'a vu ici pour tourner des films, c'est toute la place et le foncier qui est disponible. And I'll never look behind, 'cause I was born for the purpose that crucifies your mind. So convince your mirror, as you've always done before, giving substance to shadows, giving substance evermore.
L'homme de Détroit, vous aurez reconnu peut-être Sixto Rodriguez, un homme qui a vécu à Détroit. Merci beaucoup à toutes les deux de nous avoir accompagnés ce matin, Flaminia Padeu et Sylvie Folle, toutes les deux géographes. Un grand merci de nous avoir accompagnés ce matin.